Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.
La musique de la Grande Guerre, une chronique de Christiane Weissenbacher.
On doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Dans le concert discordant des clameurs nationalistes qui retentirent de part et d'autre du Rhin entre 1870 et 1918, on put entendre des voix plus harmonieuses, osant affirmer leur intérêt, voire leur goût pour la différence. Telle celle de Ravel, qui, en 1909, quitta la Société Nationale, SN, que dirigeait Dindy, pour fonder avec Schmitt et Kecklin la Société Musicale Indépendante, SMI, plus ouverte à la modernité, à la laïcité et surtout aux compositeurs étrangers. Parmi ceux-ci, le plus en vue, sinon le plus joué, était l'Autrichien Arnold Schönberg. Ravel avait envisagé, dès 1913, le projet mirifique d'un concert scandaleux, je le cite, avec la création française du tout récent Pierrot Lunaire. Celle-ci n'eut finalement lieu qu'en 1922. Mais dès le 28 mai 1913, la veille de la création du Sacre, on put entendre, au 26e concert de la SMI, les trois pièces pour piano opus 11, lesquelles firent au critique SN Marcel Orban l'effet d'un chimpanzé improvisant au piano avec ses pieds dans l'obscurité. Pendant la guerre, les concerts devinrent rares et les rapprochements franco-allemands, pour ainsi dire, inexistants. Ce qui rend d'autant plus méritoire l'amitié qu'il y a de 1899 à 1926, l'allemand Richard Strauss et le français Romain Rolland. Jean-Christophe, le roman fleuve de Rolland, raconte la vie d'un compositeur allemand contemporain de Strauss qui, après avoir découvert et assimilé le modèle alternatif de la culture française, parvint à effectuer une synthèse intellectuelle de l'Europe entière. Ce n'est pas tout à fait le bilan de Strauss. Mais, comme l'explique Valère Étienne dans son mémoire de 2011, Rolland a pu précisément demander à son héros d'accomplir l'idéal resté inaccompli par Strauss. La première scène écrite par le romancier en 1903 est la scène finale, où l'artiste mourant reçoit d'une voix céleste la révélation de cet idéal qu'il a poursuivi toute sa vie. Un épisode qu'on ne peut pas ne pas rapprocher de Mort et Transfiguration, le poème symphonique achevé par Strauss en 1889. Et comme pour confirmer cette parenté musico-littéraire, Kecklin composa à son tour un poème symphonique d'après l'avant-dernier chapitre de Jean-Christophe, Le Buisson Ardent.
Thank you.
Après la guerre, grâce à l'action militante de pacifistes comme Romain Rolland ou Henri Barbus, les échanges culturels reprirent assez rapidement. Ainsi, à l'automne 1920, Ravel et son ami Alfredo Casella, un passionné de Mahler et de Schoenberg, étaient à Vienne les hôtes d'Alma Mahler pour la création de la valse dans sa version originale pour deux pianos. Ravel a dit lui-même qu'il avait conçu cette œuvre en 1906 comme une espèce d'apothéose de la valse viennoise. Mais en passant par les épreuves de la guerre, les 10 millions de morts, le naufrage de l'Empire autrichien et le décès de la mère bien-aimée, la danse évolua vers le tournoiement fantastique et fatal, je cite toujours Ravel, qui lui fait perdre pied dans les dernières mesures. Schoenberg dut être fortement stimulé par ce concert, car il entreprit peu après sa première œuvre véritablement sérielle, les 5 pièces pour piano opus 23, dont la dernière, la seule qui soit intégralement sérielle, s'appelle Valza. La SMI disparut en 1935, surtout faute de subsides, mais aussi parce que les jeunes compositeurs ne s'y retrouvaient plus. En 1932, comme le Ravel de 1909, Pierre-Octave Ferroux claqua la porte de la société vieillissante pour fonder une société d'avant-garde, le Triton. Comme quoi, il ne suffit pas de savoir tendre la main à ses voisins, il faut aussi pouvoir ouvrir les bras à ses descendants.